Le journal Estelle Herman.
Bonjour. De nombreuses personnalités politiques se mobilisent pour de meilleures connexions ferroviaires. Elles se sont retrouvées ce matin pour exprimer leurs préoccupations au sujet de la suppression des liaisons directes entre la ligne du Pied du Jura et Genève. À Moutier, un jurassien de 67 ans est porté disparu depuis dimanche. Sans nouvelles depuis une semaine, sa famille lance aujourd'hui un avis de recherche. On vous en parle dans cette édition. Les audiences plongent pour la SSR. Depuis l'arrêt de la FM il y a un peu plus d'un mois, l'entreprise a vu ses chiffres baisser dans toute la Suisse. Le directeur des opérations tempère les inquiétudes. Si vous levez la tête vers le ciel, vous verrez sûrement des stratus sur le Seeland jusque vers 800 à 1000 mètres d'altitude. Ils se dissiperont partiellement en cours de journée. Les températures sont de saison, donc bien fraîches. La Suisse romande se sent délaissée en matière de rail. De nombreuses personnalités politiques se mobilisent sous le nom de l'Alliance des villes Pied du Jura. Elles se sont retrouvées ce matin dans le train à destination de Genève. Objectif, revendiquer de meilleures connexions ferroviaires. Suite à l'introduction du nouvel horaire CFF 2025, la quasi-totalité des liaisons directes entre la ligne du Pied du Jura et Genève ont été supprimées. Le maire de Saint-Imier, Corentin Jeanneret, a fait le déplacement en train jusqu'à Genève. Pour lui, c'est une manière de maintenir le dialogue avec les CFF et de débloquer ce nœud ferroviaire Corentin Jeanneret.
On prend le train, on se retrouve sur le trajet, les différents élus, ça va de Delémont jusqu'à Genève et on se retrouve tout le long de la ligne pour partager un peu le quotidien des pendulaires qui doivent changer à Renan pour se rendre à Genève et cette perte d'attractivité finalement de la ligne ferroviaire et du transport ferroviaire en Suisse.
Et ces suppressions quasi totales donc de liaisons directes entre le Pied du Jura et Genève, elles ont quel impact concrètement selon vous dans la région ?
Alors on est une région industrielle, c'est pas la ligne qui passe directement par Saint-Imier, mais si vous allez à Bienne ou à Neuchâtel par la Chaux-de-Fonds, vous êtes pénalisé, c'est cette ligne, cette Intercité 5, cette ligne Pied du Jura, et puis ben voilà, s'il faut aller à Genève Aéroport, s'il faut aller à Genève pour affaires, on est une région industrielle, on a beaucoup de gens qui pendulent, soit pour venir chez nous, soit des gens de notre région qui s'exportent. C'est un réel problème ce changement, qui dit changement dit risque de rupture de correspondance, dit risque de retard, dit risque d'attendre à la gare de Renan. C'est autant de choses qui rendent notre région périphérique encore moins attractive du point de vue ferroviaire, donc c'est pour ça qu'on se bat. Aussi les petites communes qui ne sont pas forcément sur cette ligne, mais on doit se défendre dans cette situation.
Pour les élus, les conséquences du nouvel horaire 2025 des CFF se font déjà ressentir dans la région. La durée des trajets a augmenté et impacte l'attractivité économique et résidentielle des régions concernées. Pour la maire de Bienne, Glenda González-Bassi, la mobilisation est aussi une question de solidarité et de cohésion nationale.
On parle ici de services publics concernant les CFF et la solidarité nationale est importante. Donc tous les axes principaux doivent être priorisés avec le même confort, la même cadence, les mêmes possibilités. Ça coupe aussi les régions. Par exemple, quelqu'un de Porrentruy qui veut se rendre à Genève à 3 changements, à un temps de parcours de 3 heures alors que nous sommes sur un axe principal a priori. Ce sont des choses justement qui aujourd'hui, dans un contexte où on doit être mobile et aussi où on veut favoriser le transport public au détriment du parcours avec des véhicules motorisés individuels, va complètement à contre-courant en ce qui concerne tout le Pied du Jura.
Un dossier de Manon Becker. À noter que la récente annonce de l'Office fédéral des transports concernant une demande supplémentaire de 14 milliards de francs fait redouter le pire. Le montant avait été demandé pour consolider l'infrastructure CFF à l'horizon 2025. L'Alliance des villes et Ouest Rail, derrière la mobilisation, redoute que la situation actuelle devienne la norme dans le futur. Cela fait 5 jours qu'un jurassien est porté disparu à Moutier. Un ajoulot de 67 ans, Christian T, a quitté le pôle santé de l'hôpital du Jura bernois dimanche dans la journée sans en avertir personne. Depuis, la police bernoise a lancé des moyens importants pour le retrouver sans toutefois transmettre un avis de disparition aux médias. Ce matin, la famille a pris contact avec notre rédaction Cyprien Lovy.
Face au désarroi de la situation, les enfants de Christian T ont sollicité notre rédaction pour que les médias régionaux puissent sensibiliser la population et tenter de trouver tous les indices possibles sur la disparition de leur père, hospitalisé durant une semaine au pôle santé de Moutier, les moyens engagés jusqu'ici n'ayant pas permis de le retrouver. Hélicoptère, chien, étroite collaboration avec la police jurassienne et même hier colonne de secours de Moutier pour aller dans des lieux escarpés, sans succès. Christian T mesure 1m80, a les cheveux gris et boite légèrement de la jambe gauche. Contactée ce matin, la police bernoise nous a déclaré que les recherches sont suspendues dès aujourd'hui en l'absence d'indices et d'éléments de preuve supplémentaires, mais elles reprendront dès que de nouveaux éléments lui parviendront.
Toutes les personnes qui pourraient donner des indices et informations CH, où vous trouverez le numéro de téléphone mis à disposition par la famille de Christian T. Bonne nouvelle pour Corgémont, le chantier de la Fondation Grosjean touche à sa fin. Ce projet de rénovation et de transformation prévoit la réalisation de 8 appartements. Aucun retard ni dépassement financier supplémentaire n'est à signaler, écrit la commune dans la feuille d'avis du district de Courtelary. Les travaux devraient se finaliser fin mars. Un nouveau visage pour la Migros de Madretsch. Le bâtiment de la route de Bruck à Bienne doit être démoli puis reconstruit pour quelque chose de plus moderne. Le supermarché sera déplacé au rez-de-chaussée. C'est un jury d'experts qui a désigné le projet gagnant en collaboration avec la ville de Bienne et le géant Orange. Vos explications, Lucie Ostorero.
La caisse de pension Migros avait lancé un concours l'été dernier. Elle a reçu un peu plus de 140 projets et le jury d'experts a tranché. Une tâche qui était difficile, c'est ce qu'a expliqué Kylian Bullman, un responsable de la caisse de pension de la Migros, à nos collègues de Canal. En plus du supermarché, des commerces doivent être aménagés au premier étage. L'accès au magasin doit rester facile pour approvisionner et transporter la marchandise. Avec ce nouveau projet, 90 appartements verront le jour, ce qui permettra de créer de nouveaux logements dans le quartier. Le projet retenu doit encore obtenir les autorisations cantonales. Les travaux de construction pourront commencer en 2027, mais 2028 semble plus réaliste selon Kylian Bullman.
Merci Lucie. La place de la Croix sera aménagée en parallèle du magasin de la route de Bruck. Le crédit du projet sera discuté en juin prochain. Les rues de la vieille ville de Bienne vont s'animer une nouvelle fois ce soir. Ce vendredi marque le retour du First Friday en 2025. L'événement permet de dynamiser le commerce local grâce à une manifestation qui prend place chaque premier vendredi du mois de février. L'an dernier, l'événement a attiré les foules au grand bonheur des enseignes de la vieille ville. Du First Friday.
C'est une année extraordinaire, on a eu beaucoup de succès, beaucoup de visiteurs de la région, mais aussi au-delà des frontières, qui sont venus en masse aux différents First Friday de l'année 2024. On a eu des retours justement des commerçants qui expriment justement leurs soucis concernant la continuité du First Friday. Pour eux, c'est une ressource vraiment indispensable, devenue indispensable pour la bonne marche de leurs affaires, que ce soit au niveau de la visibilité, de se faire connaître, de permettre à tout un chacun de connaître toutes les richesses de la vieille ville, le savoir-faire régional. Le First Friday, ça amène du monde, ça amène de la visibilité, ça amène la possibilité de se présenter dans un cadre totalement différent, d'un cadre plutôt festif et puis culturel et artistique.
Le First Friday revient ce soir dès 18h en vieille ville de Bienne. C'est un passage difficile pour la SSR. D'après les premières projections, l'arrêt de la FM au 1er janvier a engendré une importante perte d'auditeurs quotidiens pour l'entreprise. Pour évoquer cette inquiétante diminution, le directeur général des opérations de la SSR, Marco Derighetti, est intervenu ce matin lors de la 15e édition de l'atelier radiophonique Roman à Neuchâtel. Guillaume Joly.
Cette baisse d'audience était attendue par la SSR, mais les chiffres sont conséquents. Selon les premières estimations, l'entreprise aurait perdu 500 000 auditeurs au niveau national et près de 130 000 en Suisse romande. Pas de quoi paniquer toutefois pour Marco Derighetti. Le directeur général explique tout d'abord que ces chiffres ne sont pas encore fiables et qu'il faudra attendre juillet pour avoir des données précises. Il souligne également qu'il faut encore laisser du temps à la population pour s'équiper en DAB+ et se faire à ce changement. Enfin, il souligne que les radios privées peuvent encore diffusé en FM jusqu'en 2026 avant de passer au DAB+, ce qui devrait à terme atténuer cette tendance.
Ce passage au DAB+ n'est toutefois pas la seule cause de cette baisse d'audience. On retrouve Guillaume Joly.
En effet, c'est plutôt un facteur supplémentaire car les chiffres n'ont pas attendu ce changement pour pointer vers le bas. Prenons l'exemple de RTS La Première. La chaîne publique regroupait 496 000 auditeurs quotidiens au second semestre 2019. 5 ans plus tard, elle n'en comptait plus que 372 000, soit exactement un quart de moins. En conclusion, la SSR devra sans doute changer plus que des récepteurs si elle entend stopper l'hémorragie.
À noter encore qu'actuellement, 19% des écoutes radio en Suisse se fait encore en FM au niveau national. Cela ne fait même pas 3 semaines que Donald Trump est le nouveau président des États-Unis et il a déjà pris de nombreuses décisions qui secouent le monde entier. Sa volonté de ne plus financer l'aide à l'étranger et de se retirer de plusieurs organisations internationales affecte de nombreux pays, y compris la Suisse. Les explications de notre correspondante à Berne, Marie Viognier.
2 décisions de Donald Trump ont déjà un impact significatif en Suisse. D'abord, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est basée à Genève et elle voit les experts américains quitter leur bureau. De nombreux projets sont suspendus et la lutte contre des maladies comme le VIH ou la grippe aviaire risque d'être altérée. Le nouveau président a aussi décidé de boycotter les réunions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et de geler le financement de plusieurs organisations onusiennes. C'est donc toute la Genève internationale qui pourrait être affaiblie. Le deuxième coup dur, c'est la fermeture du jour au lendemain de l'Agence américaine pour l'aide humanitaire et au développement qui finance des projets dans le monde entier avec un budget de 40 milliards de dollars. Des ONG suisses soutenues par cette agence se retrouvent en difficulté. C'est le cas de Terre des Hommes et de l'Entraide protestante. Elles doivent abandonner plusieurs projets essentiels et collaborateurs sur place. Cela concerne par exemple l'aide humanitaire en Ukraine ou au Congo, mais aussi la protection des réfugiés Rohingyas au Bangladesh.
Et la Suisse ne sera pas forcément épargnée par la volonté du gouvernement américain d'augmenter les tarifs douaniers. Le futur ministre du Commerce a affirmé hier envisager des droits de douane universels pour tous les produits entrant aux États-Unis.
RJB Sport.
La Suisse est bien partie pour décrocher une nouvelle médaille au championnat du monde de ski alpin de Salbar. Les hommes disputent en ce moment même le Super G sur la piste autrichienne. La course a commencé à 11h30 et Marco Odermatt a répondu présent, Anthony Montandon.
Parti avec le dossard numéro 8, Marco Odermatt a réalisé une manche parfaite sur une piste réputée comme étant facile. Le Nidwaldien pointe en tête avec 1 seconde d'avance sur l'Autrichien Raphaël Haser et 1 seconde 15 sur le Norvégien Adrian Seierstead. S'il s'impose, Marco Odermatt remplirait une des rares lignes qui manque encore à son palmarès. Champion du monde de descente et géant il y a 2 ans à Courchevel, il vise sa première médaille en Super G lors d'un grand rendez-vous. Déjà favori il y a 2 ans en France, il avait échoué au pied du podium à 11 centièmes de la médaille de bronze. Le Nidwaldien peut aussi mettre fin à une disette de 16 ans pour le ski masculin helvétique. Ça fait depuis 2009 et le titre du Neuchâtelois Didier Cuche à Val d'Isère que les Helvètes n'ont plus décroché de médaille mondiale dans la discipline. Également attendu, les autres Suisses ont été plus en retrait. Stefan Rogentin pointe au 9e rang, Franjo von Almen au 12e. La frustration est de mise pour Alexis Monet. Le Fribourgeois est parti à la faute sur l'intérieur après 52 secondes de course.
Merci Anthony. De leur côté, les Suisses ont été plutôt discrètes lors du dernier entraînement en vue de la descente de demain. La meilleure d'entre elles a été Lara Gut-Berami. La Tessinoise a pris la 7e place à 1 seconde 13 de la Tchèque Esther Ledecka ce matin. Les autres représentantes de Suisse qui ont réalisé un tir groupé avec Mallory Blanc 11e, juste devant Corinne Souter. Priska Mingnoufer a fini 14e, tandis que Michel Guizine n'a pas disputé cet entraînement. Le FC Bienne trébuche en amical. Le leader ceylandais de Promotion League de football s'est incliné 2-0 à Delémont hier, à l'occasion de son dernier match amical de l'hiver. Ultra dominé en première mi-temps, le FCB n'a jamais vraiment réussi à se montrer dangereux face aux Jurassiens. Lors de cette préparation, les hommes de Samir Chaibedra ont remporté 3 des 6 rencontres qu'ils ont disputées. Le FC Bienne a accueilli plusieurs nouveaux joueurs durant l'hiver, dont le retour de Brian Beyer. S'il n'a pas trouvé la faille hier soir contre Delémont. L'attaquant arrivé en provenance de la 3e division allemande a disputé l'entièreté de la rencontre. Brian Beyer explique les raisons de sa signature dans le club ceylandais.
Non, c'est même pas me relancer parce que j'avais des plans en Challenge League, donc c'était plutôt un choix de stabilité, de revenir à Bienne et essayer de jouer cette promotion qui est vraiment nos attentes principales. Après ça va être difficile mais on y croit.
Vous avez donc des expériences à l'international en France, en Allemagne. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que cette expérience peut apporter au FC Bienne?
Tout ce qui est aspect tactique, sur ce qu'il faut faire ou pas faire. Aider les jeunes à se dire que c'est possible aussi, vu de ma carrière, qu'ils peuvent aller chercher le monde professionnel, qu'on peut aller le chercher tous ensemble. Et jouer une promotion, c'est toujours quelque chose d'intéressant dans une carrière. Donc je pense que je peux leur apporter cette expérience-là de tactique, de dépassement de soi et d'expérience de jeu, quoi.
C'est un objectif nécessaire pour vous, la promotion ?
Ouais, c'est un objectif clairement, on ne se le cache pas. C'est un championnat qui est très difficile, mais ouais, on ne se cache pas qu'on a envie de chercher cette promotion et de pouvoir amener le FC Bienne en Challenge League. Après, ouais, comme je vous l'ai dit, il y a encore du chemin, il n'y a rien de fait, donc on va travailler pour cet objectif-là.
Des propos recueillis par Florian Wolfer. Le FC Bienne va reprendre le championnat de Promotion League dans 9 jours à domicile contre Vevey. C'est la fin de cette édition. Bon appétit à vous. RJB Sport.